Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Qu'est-ce qui fait causer ce matin et le petit déjeuner de l'actualité dans un instant avec nos chroniqueurs, hein, Alexis Poulain, Yves Decardel, Christine Bouillot qui seront avec nous. Et puis vous également, 0826-300-300, 0826-300-300, vous nous appelez, vous pouvez réagir sur tous les sujets dans l'actualité qui vous font bondir, qui vous font sursauter, qui vous donnent un peu de joie ou oui. Qui au contraire vous mettent en colère. Bah, 0826-300-300, on en parlera jusqu'à 10h hein, quasiment. Parce qu'on aura notre invitée tout à l'heure, Juliette Speranza. L'échec scolaire n'existe pas, qui sera avec nous. C'est une ancienne prof, elle a arrêté, elle s'est dit c'est pas possible ce que l'on fait aujourd'hui avec les enfants à l'éducation nationale.
Elle a une méthode,
elle a une méthode pour essayer de redonner un peu de l'autonomie aux enfants, etc. Ne pas les traumatiser. Elle sera avec nous à 9h15 et vous pourrez dialoguer. Tout d'abord, évidemment, qu'est-ce qui fait causer les trois gros sujets dont on parle dans la presse ce matin, Benjamin Glaise. La rentrée scolaire, hein, forcément.
Bah oui, forcément, J-1 avant cette rentrée scolaire qui avance masquée, comme l'indique l'Indépendant catalan ce matin. Le masque obligatoire pour les enseignants et les élèves à partir de la 6e. Entre crainte et impatience, parents et élèves s'apprêtent à vivre un moment finalement inédit avec cette image que l'on va voir, que l'on va vivre demain matin. Cette maman en train d'ajuster le masque sur la bouche, le nez de son fils à l'entrée de son groupe scolaire. C'est aussi la photo à la une de Midi Libre, rentrée sous surveillance. Ça, c'est pour la République des Pyrénées qui fait le point sur toutes les mesures sanitaires pour cette rentrée.
Oui, Benjamin, un procès clé aussi cette semaine, c'est celui des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher.
Oui, un procès fleuve qui doit démarrer ce mercredi aux Assises de Paris, le premier depuis les attentats de 2015. 2 mois d'audience, 200 parties civiles, 144 témoins. Les principaux protagonistes sont morts, mais les attentes des parties civiles sont considérables. Face à eux, 14 accusés renvoyés aux Assises pour complicité, 14 accusés qui tâcheront de convaincre qu'ils ignoraient le projet des terroristes, explique le Figaro avec ce titre sobre en une, le terrorisme islamiste en procès 5 ans après Charlie.
Oui, on va beaucoup en parler évidemment et en causer toute la semaine. Et puis la sécurité aussi à la une de la Dépêche du Midi.
Emmanuel Macron mis à l'épreuve après un été marqué par de nombreuses violences. On en a parlé tout au long de cet été. Rix à Dijon, mort d'une gendarme dans le Lot-et-Garonne. Agression mortelle d'un chauffeur de bus à Bayonne. Fusillade à Toulouse. Elles ont été nombreuses. L'image à la une de la Dépêche, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en arrière-plan du président Macron. Le gouvernement qui promet des réformes sur cet épineux sujet de la sécurité.
Oui, on va en reparler d'ailleurs peut-être dans un instant dans le petit déjeuner de l'actualité parce que on l'a vu, il y a un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et CNews ce matin qui montre que la préoccupation des Français en cette rentrée, évidemment c'est la santé avec le Covid toujours et puis toutes les histoires qui y sont liées. Et le bond de la délinquance de nouveau qui fait partie de la préoccupation des Français en cette rentrée. Alors qu'est-ce qui fait causer également? On regarde du côté des journaux avec Patrice Maggio qui est directeur adjoint des rédactions de Nice Matin qui est en ligne avec nous. Bonjour Patrice.
Bonjour à tous.
C'est que du bonheur, c'est la une ce matin du journal après la victoire de Julien Alaphilippe sur le Tour hein, parce qu'on rappelle que le Tour est toujours sur la Côte d'Azur.
Ouais, c'est que du bonheur et puis aussi un peu de soulagement parce que c'était pas évident que tout se passe aussi bien jusqu'à la veille du départ. On s'en rappelle, il y avait des incertitudes, y compris même sur le départ du Tour, avec cette menace de la Covid-19 au-dessus de l'épreuve comme une épée de Damoclès. Et puis c'est parti, et puis c'est bien parti, même si c'était sous la pluie le premier jour.
Ah oui, il y a eu quand même des chutes nombreuses, on s'est interrogé. Hein. C'était une vraie patinoire.
C'était une vraie pluie, je peux vous l'assurer. Ouais. Et puis hier, cette magnifique victoire d'Alaphilippe. Alors certes, c'était pas la grande foule, mais c'était prévu. Les messages avaient été passés tout au long des jours précédents. Surtout, ne venez pas regarder devant la télé. L'important, c'est que l'épreuve se tienne. Ouais. Et effectivement, les Azuréens ont été plutôt disciplinés. Ils sont restés soit derrière les palissades, soit au pied des cols, et ils sont restés chez eux. Mais c'était quand même une belle fête. Ouais. Finalement, c'était un bon compromis.
Mais c'est pas quand même un peu frustrant de voir le Tour de France qui est chez soi et de ne pas pouvoir aller profiter du Tour, quoi.
Cette année, il y a beaucoup de choses frustrantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
C'est vrai, bien sûr.
Mais c'était un tel symbole que le Tour puisse partir et partir de Nice. Franchement, il y a eu des images fantastiques, même à la télé. Même nous, Azuréens, on ne voit jamais la côte comme ça, avec des villages vus du ciel. Mmh. C'était des vraies retrouvailles avec notre territoire, donc on était quand même super contents.
Ouais. Et en une également, Patrice Maggio, ce matin, dans Nice Matin, c'est le combat d'une mère victime il y a un an d'un féminicide.
Oui, c'était il y a une an pile. Hein. C'était l'assassinat de Salomé. Son conjoint l'avait tué et avait caché son corps sous un tas de détritus à Cagnes-sur-Mer pour retarder sa découverte. Elle avait 21 ans à l'époque. L'année dernière, c'était le 100e féminicide en France. Sa mère, qui se prénomme Muriel, a fait de sa tristesse un véritable combat. Elle veut informer, elle veut prévenir, elle veut que les choses avancent. Elle trouve qu'aujourd'hui encore, les choses ne vont pas assez vite, qu'il y a des problèmes de formation des policiers, que les femmes ne sont pas assez bien reçues dans les commissariats. Vraiment, c'est une interview très forte ce matin, dans le matin.
Ah oui. Merci beaucoup, Patrice Maggio. On va continuer de parler de tous ces sujets dans le petit déjeuner de l'actualité.
Restez avec nous, 8h48. Et ce matin, le petit déjeuner de l'actu avec nos éditorialistes du jour, Alexis Poulain, Yves de Cardrel, Christine Bouillot. Vos appels 0826-300-300. Bienvenue, c'est la rentrée du Grand Matin Sud Radio.
Oui, alors on va parler beaucoup, évidemment, d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé devant la presse présidentielle un vendredi soir. Il a évoqué l'économie, ce qu'on verra avec Yves de Cardrel dans un instant. L'autorité, vous en avez parlé, Alexis Poulain, déjà dans votre édito ce matin. Mais juste avant ça, vous vouliez attirer notre attention sur ce qui se passe aux États-Unis.
Oui, dans la ville de Portland, où cette fois-ci, c'est un supporter de Trump qui aurait été tué par les manifestants Black Lives Matter, alors qu'il y a quelques jours, c'était des manifestants du camp opposé qui auraient été tués par un manifestant. Mmh. On est en train de voir l'effondrement d'un pays en direct. On a l'impression d'une guerre civile larvée, enfin, même chaude, puisqu'on parle de mort maintenant dans la rue. Le maire de Portland qui avait refusé l'arrivée des troupes et l'aide de l'État fédéral aujourd'hui, se retrouve bien embêté en disant il serait temps qu'on dépasse les clivages et qu'on se mette tous ensemble pour arrêter l'escalade de la violence. Donald Trump a tweeté « Law and order », la loi et l'ordre. Justement, on peut se demander où en est le pays. On est en année électorale, il faut le rappeler, c'est dans quelques mois qu'on va voter pour le président des États-Unis. C'est assez inquiétant de voir l'état de fébrilité du pays, l'état de violence également. Depuis Black Lives Matter, ça n'est pas retombé. Et on sent bien que la campagne électorale est passée sur un autre thème, en fait, qui est vraiment de deux camps. Les pro-Trump, les anti-Trump. Les démocrates n'ont pas vraiment de programme à part être anti-Trump. Mmh. Les républicains n'ont qu'un seul programme, faire réélire Trump. Les débats d'idées n'existent plus, en fait. On est vraiment dans, aujourd'hui, est-ce que les États-Unis vont pouvoir dépasser ces clivages-là profonds de la société. Abraham Lincoln le disait, un des risques majeurs pour les États-Unis, il n'est pas externe, il est interne, de savoir si les libertés s'effondrent aux États-Unis, alors le pays ne peut pas tenir.
Oui, et dans un contexte économique extrêmement difficile, avec des millions de chômeurs, Yves de Cardrel. Hein.
Avec 50 millions de chômeurs, exactement, au dernier comptage, ce qui est colossal. Et on estime actuellement qu'un ménage sur 4 ou sur 5 ne peut plus payer son loyer. Alors vous savez ce que c'est qu'aux États-Unis, ne plus pouvoir payer son loyer, vous êtes expulsé de votre logement dans les 48 heures. Donc c'est un état vraiment au bord, en même état de crise qu'en 1932, au moment de l'arrivée de Roosevelt. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Alexis Poulain, qui me frappe beaucoup, c'est que il y a ce retour de la guerre civile, de la guerre des mouvements raciaux, etc. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'effondrement des États-Unis. Qui à venir avec le fait que de toute façon Donald Trump ne reconnaîtra pas le résultat de l'élection. Et ça, il l'a dit, ça veut dire que s'il est battu, mais c'est très grave. C'est la première démocratie, c'est la première démocratie au monde, et on va avoir une élection présidentielle non pas dans quelques mois, mais dans quelques semaines, c'est quasiment après-demain. Et peut-être que le président en titre, l'homme le plus puissant du monde, dira je ne reconnais pas les résultats de l'élection. Est-ce que vous imaginez ce que ça va être le mois de novembre, le mois de décembre aux États-Unis? C'est, ça va être dantesque, absolument
mais,
dantesque.
Mais quand vous avez parlé de guerre civile, c'est un mot qui fait terriblement peur, mais on se rapproche de cela, quoi, avec l'ensemble des mouvements. Quoi.
On est sur plusieurs pays en un, en fait, on voit bien que ces pays n'ont pas grand-chose à voir en commun. Et c'est
alors
bien
que jusqu'à
danger.
Présent, ils l'avaient quand même,
ils l'avaient,
une,
bien
même
sûr,
une
mais,
identité
mais,
commune.
Je
quoi.
Crois que le virus qui rend fou ce coronavirus aussi a exacerbé les inégalités et les tensions. Yves de Cadrel le rappelait, le nombre de gens qui vont se retrouver à la rue va être encore pire que la crise de 2008. La crise économique qui est devant nous, elle va être bien pire que celle de 2008. Aujourd'hui, la Fed a même d'ailleurs dit qu'elle allait autoriser l'inflation. Donc on va rentrer dans une phase de dépression mondiale parce que derrière, l'économie réelle s'effondre, mais la finance va très bien. Wall Street va très bien. Jeff Bezos, maintenant, est l'homme qui vaut 200 milliards.
Ah mais non, mais ça, c'est incroyable. Hein. Yves de Cadrel, nous en parlions ce week-end ensemble en préparant cette émission. La bourse aux États-Unis bat des records. Alors qu'il y a 50 millions de chômeurs.
C'est un facteur d'instabilité supplémentaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait une distorsion importante des inégalités. Ça, tout le monde le soulignait, à commencer par Thomas Piketty. Mais c'était supportable dans la mesure où il y avait le plein emploi. Le taux de chômage, je vous rappelle, était à 3,5%, était à 3,5% au plus bas historique en janvier dernier aux États-Unis. Et maintenant, le nombre de chômeurs est au plus haut historique, plus haut qu'en 1929, après la crise de 1929. Donc, là, maintenant, cette hausse des grandes fortunes, notamment issues des GAFA, mais pas seulement les GAFA, parce que tous les indices boursiers américains ont battu des records pendant l'été, ont battu des records historiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise boursière, il y a une crise économique très profonde dans tous les États-Unis, mais il n'y a pas de crise boursière, parce qu'au contraire, on est au plus haut. Et il y a une création de richesses monumentale, et pendant ce temps-là, un nombre de homeless, de sans-abri, de chômeurs qui bat des records.
Bon, voilà, on devait faire un petit aparté avant de revenir sur l'autorité, etc. Finalement, on a disserté un peu longuement, parce que c'est quand même, c'est plus qu'important, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer et qui, malheureusement, on ne voudrait pas que ça se répercute aussi ici en Europe, mais forcément, il pourrait y avoir des incidences. Avant de revenir avec vous, Alexis Poulain, Yves de Cadrel et Christine Bouillot, qui est connectée également avec nous.
On a un appel au standard au 0826-300-300 avec Hervé qui nous appelle d'Antony. Bonjour Hervé.
Bonjour. Bonjour Hervé. Bonjour, Hervé. Bonjour. Nous parlions des manifestations à l'instant aux États-Unis. Vous vouliez revenir sur les bases historiques des manifestations, justement.
Notamment pour la France, puisque la question a été posée sur le retour ou pas des gilets jaunes. Moi, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai l'impression, si vous voulez, que aussi bien aux États-Unis qu'en France, on a des situations un peu, pas totalement, mais un peu similaires, parce que quand même les problèmes sont vraiment différents. Mais j'ai l'impression, si vous voulez, que ce qui se passe avec ces mouvements qui ne sont pas coordonnés, qui n'ont pas de leader, c'est un peu l'illusion démocratique qu'on peut intervenir à partir du moment où la technologie nous le permet. Moi j'y vois plutôt le symptôme d'un effondrement des connaissances et avec la volonté et puis l'effondrement si vous voulez de la croyance dans la démocratie puisqu'on veut même plus se faire représenter.
Ouais, c'est vrai. Trump qui dit qu'il ne reconnaîtra pas, et ce que vous vouliez dire et souligner probablement, Hervé, c'est les gilets jaunes sans leader, quoi, en quelque sorte, hein, c'est ça.
Je ne sais pas si ça va revenir, mais ils sont le symptôme de quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est ça, voilà. Mais maintenant, ce n'est pas que le seul problème, parce que ce qu'on n'évoque pas, c'est le problème dit des banlieues, etc., avec des problèmes, si vous voulez, qui sont plutôt d'ordre culturel qu'autre chose, j'ai l'impression, même s'il y a des problèmes sociaux.
Ouais, c'est vrai. Hervé, vous pouvez rester avec nous. Et avec nos éditorialistes, on va en reparler dans un instant, dans le petit déjeuner de l'actualité qui est jusqu'à 10h. À 9h15, on recevra Juliette Speranza qui a écrit un livre sur l'éducation alors qu'on est à la veille de la rentrée.
L'échec scolaire n'existe pas, ce sera dans un instant. Et puis on va vous offrir des séjours aussi au parc Astérix pour 4 personnes avec des entrées, du bonheur sur Sud Radio.
Vous irez avec Alexis Poulain.
Absolument, ce sera avec grand plaisir.
Il adore Astérix.
Oui. Nous ferons des chevauchées. Alexis Poulain, chevauchées. 8h57, restez avec nous, on revient dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
J'ai dit vous pouvez, vous êtes obligé. Petit déjeuner de l'actu, c'est la suite ce matin, toujours avec Alexis Poulain, Yves Decardrel, Christine Bouillot. Vos appels 0826-300-300.
Oui, absolument, avec aussi évidemment les auditeurs. Dans un instant, on va parler beaucoup de la rentrée scolaire. Hein. Ça se prépare, Christine Bouillot, hein, évidemment, hein, du côté des enseignants notamment.
Christine, vous êtes là ?
Oui. Ah, Christine Kerr.
On a un petit problème de son avec Christine. Ah bah oui, elle parle, mais on l'entend parler. On la voit parler, mais on l'entend pas.
Oui. Elle nous entend. Ben non, mais on ne l'entend pas encore. Bon, alors, en attendant d'y revenir, on va parler beaucoup de cette autorité. À l'instant, l'auditeur qui était avec nous, Hervé, qui est toujours là, parlait justement aussi d'une crainte, hein, lui, dans les banlieues. Alors, il disait, est-ce que c'est culturel ou pas, Alexis Poulain?
Oui, c'est tout ce problème en fait du communautarisme dont je faisais écho dans mon édito tout à l'heure. C'est le risque en fait de cette société désorganisée, mais volontairement, parce que finalement l'individu se retrouve seul. On a cassé les solidarités familiales, on a cassé les solidarités syndicales, on a cassé finalement tout ce qui faisait qu'on avait un intérêt commun, l'union. On voit la façon dont on a traité la vieillesse dans cette crise du virus. Les EHPAD, c'est pas une solution de... C'est une solution, mais malheureusement pas la meilleure, on va dire. Et aujourd'hui, on découvre une société où la violence, soi-disant, augmente. Mais je rappelle qu'il y avait un rapport, quand même, qui date de 1977, hein, écrit par Alain Perfit, qui s'appelait « Réponse à la violence ». Et tout est écrit dans ce rapport, notamment le culturel, l'éducation, le rôle de l'école, le problème de la ségrégation dans les quartiers. 1977. Ouais. Donc ce problème, qu'on ait rebrandé ça, qu'on ait une nouvelle marque qu'on appelle l'ensauvagement, il a plus de 40 ans dans ce pays.
Oui, mais il est peut-être
plus visible aujourd'hui.
Plus visible aujourd'hui,
je ne crois pas. Enfin, je ferai un article sur ce rapport pour vous expliquer que rien n'a changé, finalement. Pourquoi il a plus d'écho ? Parce qu'on est en train de rentrer en année électorale. On est en train de préparer 2022. Et que oui, la sécurité, c'est un thème qui fait que c'est vendeur. Mais la sécurité...
Alors, non, mais Yves Decardrel n'est pas d'accord. Ah non, mais Yves Decardrel, vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait en fait Alexis Poulain, là, on vous entendait pas.
D'abord je suis un peu étonné par le soi-disant... ce que Alexis Poulain a dit, la soi-disant hausse de la violence, c'est pas une soi-disant. Là, c'est une hausse.
Ah non, il y a une hausse. Le bilan de Castaner est catastrophique. Et ces dernières années, Nicolas Sarkozy a mis la police à genoux et les violences n'ont fait qu'augmenter. Ça, statistiquement, oui, les violences ont augmenté. Alors, certains vous diront non parce qu'en fait, c'est simplement les violences déclarées, etc. Mais sur les homicides, par exemple, oui, les homicides ont augmenté. Donc ça, c'est inquiétant.
Mais Alexis Poulain, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu des erreurs de fait en termes de gestion des effectifs du temps de Sarkozy, etc. Néanmoins, quand vous citez le rapport Perfit de 77, bien sûr, il y avait de la violence. Il y a toujours eu de la violence dans toutes les sociétés, mais vous ne pouvez pas comparer la situation de 1977 avec celle d'aujourd'hui, où on tire au mortier sur des bus, il n'y avait pas de mortier dans les cités. Il n'y avait même pas de cité. Les policiers pouvaient entrer dans les cités, les pompiers pouvaient entrer dans les cités, les médecins pouvaient entrer dans les cités en 1977. Je trouve que...
Non, mais je ne veux pas comparer. Je veux dire que le problème, là où il aurait pu être pris à temps, c'est-à-dire en 1977, où le constat a été fait et ce rapport est très bien fait, on a simplement, les politiques successives ont simplement enterré les rapports, que ce soit du rapport du Sénat, rapport de haute autorité, pour ne rien faire, pour faire simplement de l'agitation politique, comme fait Darmanin aujourd'hui en parlant d'ensauvagement. Mais regardez ce qui s'est passé. Il y a eu cette vidéo de soi-disant dealers à Grenoble avec des armes. Alors apparemment, c'était un clip, c'était des armes factices, enfin peu importe. À Dijon, c'était des vraies armes. Que fait le ministre de l'Intérieur ? Il dit « Ah, je vais peut-être faire mon boulot, je vais envoyer
des équipes. » Il appelle le préfet pour que, bien sûr.
Et ils y vont, et quoi ? Il y a 50 consommateurs de drogue et ils récupèrent deux scooters volés. Ouais. Enfin, c'est ridicule. À un moment, c'est pas
Alexis
ça.
Alexis.
Oui.
Alexis, c'est pas qu'on n'a pas rien fait pendant 40 ans. On a fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Oui. On a fait ce qu'on a appelé 40 ans de politique de la ville.
Oui, c'est ça.
Et c'est, on a, je crois qu'on a déversé plus de 50 milliards d'euros dans cette politique de la ville. Cette politique de la ville a fait naître des grands frères pour répondre effectivement à ce que vous disiez très justement, à la rupture des solidarités familiales, à la rupture des solidarités des corps intermédiaires, etc. Et cette politique de la ville a été absolument désastreuse.
Ouais.
À côté de cette politique de la ville, on a fait naître en plus une politique, une culture de l'excuse pour justifier les milliards qu'on donnait à ces quartiers défavorisés.
Oui, des quartiers défavorisés. Christine Bouillot, vous vouliez intervenir à ce sujet.
Oui, sur ce sujet-là, parce qu'en fait, il revient quasiment un an et demi avant chaque campagne présidentielle, avant chaque élection. Donc, finalement, j'avais envie de vous dire rien de nouveau sous le soleil. C'est plutôt la société dans son ensemble qui a du mal avec l'autorité au sens large. Mais l'autorité, qu'elle soit à l'école, qu'elle soit à l'université, qu'elle soit sur la route, hein, qu'elle soit dans la société au sens large. Donc, on voit bien que c'est aujourd'hui le talon d'Achille d'Emmanuel Macron, parce qu'il n'imprime pas sur ces questions de sécurité. Et qu'est-ce qui est clivant, finalement, avant une campagne électorale? Les questions économiques, elles impriment pas tant que ça, les questions autour de l'emploi. Là, on est effectivement à l'aube d'une crise sanitaire dont on mesure pas, puisque c'est rempli d'interrogations, donc là-dessus, on n'a pas d'antécédents. Et finalement, les ou la politique au sens large peut imprimer des différences, de discours, montrer des muscles ou montrer à la société qu'on est plus, on est plus efficace qu'un autre, avec des chiffres effectivement qui laissent, on va dire, être débattus, parce que ça dépend comment on décide de les étudier. Et du coup, on a ce débat qui revient de manière absolument régulière, mais avec une réalité, c'est que le sentiment et la réalité de la violence, c'est quelque chose qui aujourd'hui imprime dans la société. Et là, on est dans une séquence particulière. On a vécu un été très particulier, avec des Français qui sont restés confinés, des Français qui ont voulu sortir, avec des, on va dire, un sentiment de relâchement. Et donc là, aujourd'hui, dans cette rentrée scolaire, puisqu'on ne peut pas parler des questions d'éducation, là, on est sur des questions des questions de santé, eh bien, on imprime sur les questions de sécurité, et avec un ministre qui remplace un autre ministre qui a effectivement fait beaucoup
de... Non, mais il y a eu des faits, Christine. Non, mais Christine, c'est vrai, mais il y a eu un certain nombre de faits. Hervé D'Antoni, justement, était là tout à l'heure et est toujours avec nous au 0826-300-300 et commençait à l'évoquer, cela. Hein. Hervé.
Oui, non, mais moi, si vous voulez, ce qui me frappe dans votre discussion, c'est que c'est pas un problème nouveau. D'abord, vous parlez de l'individualisme, la montée de l'individu. Bon, d'abord, l'individu, il est né au XIIe siècle, et puis d'autre part, sous tout ce que vous décrivez, c'est en fait les conséquences de la modernité. Ça a été décrit dans les années, alors 1840-1847, par Alexis de Tocqueville, qui prévoyait que la démocratie engendrait l'individualisme, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus, si vous voulez, de corps constitué, et que tout le monde, tout serait remis à l'individu. Mais si vous voulez, en plus, il y a un problème. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à la France, j'ai pas l'impression, mais il y a eu tout un discours sur les prisons, sur l'autorité, justement, et ce qui fait que même, si vous voulez, dans le fonctionnement de la société, par exemple, un problème que je connais bien, c'est l'enseignement, c'est-à-dire que les administrations locales ne veulent plus d'autorité. C'est-à-dire qu'elles demandent, si vous voulez, aux professeurs d'enseigner, mais sans autorité. Au bout d'un moment, sinon ça ne fonctionne plus, ce qui fait qu'on vit dans un monde de fous, où les parents se permettent, si vous voulez, d'intervenir dans les cours, ou se permettent d'intervenir en tout cas auprès de l'administration. Et donc tout ça, si vous voulez, c'est parce que tout à l'heure, j'ai entendu un de vos intervenants qui disait, on a rien fait, etc. C'est pas on, c'est le modèle de société, si vous voulez, qu'on a construit, mais que l'humanité est en train de se construire, qui est difficilement tenable si il n'y a pas un discours sur l'autorité et surtout des dispositions législatives. Moi, je ne vois aucune disposition législative. Vous dites Darmanin n'intervient pas. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Il pourrait le faire. Enfin, la majorité pourrait le faire si vous voulez transformer les lois et puis faire en sorte, si vous voulez, que ceux qui commettent des crimes ou qui commettent des délits soient vraiment sanctionnés.
Oui. Alors là, c'est pas forcément l'enquête, c'est après la justice, quoi. Oui. C'est la justice. C'est ce que vous réclamez. Et c'est vrai que bien souvent, on parlait de cette affaire du multirécidiviste de Nantes, bien sûr. On pose la question, est-ce qu'elle est trop laxiste, la justice, ou pas, même s'il y a eu un suivi, c'est compliqué. Mais dans d'autres affaires, et on l'a vu avec des délinquants encore cet été, bien souvent, ils sont arrêtés, interpellés, et ils ne seront jugés que des mois plus tard, quoi. Et entre-temps, ils oublient. S'ils sont jugés.
C'est un simple rappel à la loi ou c'est. Oui, oui. Oui. Enfin, moi, je me rappelle de ce maire qui a été tabassé, enfin, ou violenté parce qu'il voulait arrêter des dégradations et c'était juste un rappel à la loi pour ces jeunes qui avaient fait ça. Donc, il y a un problème de moyens de la justice, il y a un problème aussi de la punition, de la sanction, est-ce que ça marche ? Et puis il y a un problème de la prison. La prison en France, toujours montrée du doigt par l'Observatoire international des prisons, parce que surchargée, parce que finalement on n'y apprend rien à part être davantage monté d'un cran dans la criminalité une fois qu'on va en prison. C'est très difficile d'avoir un parcours de réinsertion.
Il faudrait des centres,
Il y a des centres. Alors il y a des centres pour la jeunesse, des centres
ouverts.
Peut-être pas assez. Là encore, il y a eu plein de débats sur la façon dont il fallait faire avec ces jeunes-là. Mais encore une fois, l'État ne peut pas tout. C'est là où c'est malheureux. C'est-à-dire qu'à un moment, la faillite de l'éducation familiale fait qu'on a des jeunes avec des profils de psychopathes, parce que pas élevés, parce que prêts à finalement accepter la violence, à en faire un mode de vie. Et malheureusement, je vois pas comment on peut éduquer, rééduquer une fois que ça devient un mode de vie. Ouais. Avec un modèle social, effectivement, où c'est vendu comme étant si tu veux réussir dans la vie, il faudra être le plus violent pour être en haut de la chaîne alimentaire. Donc c'est un vrai problème.
Ouais, c'est un vrai problème. Justement, vous parlez d'école, tout commence par l'école. Dans un instant, Juliette Speranza, elle était prof, elle a enseigné pendant 10 ans, elle a claqué la porte parce qu'elle estime que les méthodes ne sont peut-être pas adaptées. On va voir ça dans un instant avec elle. Les éditorialistes qui peuvent rester également et y participer, 0826 300 300, ça c'est vous. Vous nous appelez, vous posez vos questions. Bien sûr, nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio.
Et en attendant, on va vous offrir un séjour pour 4 en famille ou entre amis, dans un hôtel, petit déjeuner, dîner et les entrées au parc Astérix. Vous allez pouvoir voir des attractions, hein. Attention Menhir et l'aventure 4D inédite d'Astérix et Obélix. Si vous voulez voir toutes les attractions, c'est sur parcastérix.fr. Vous nous appelez 0826 300 300 et ce cadeau est peut-être pour vous si vous êtes le Xème appel.
Allez, c'est parti pour le 13e appel.
13e appel, voilà, c'est pour vous une opération Astérix. Restez là, il est 9h14.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h18, merci de votre fidélité au Grand Matin. Et ce matin, on parle de l'échec scolaire et qui n'existe pas aux éditions Albin Michel, selon Juliette Speranza. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ex-enseignante et puis presque un manifeste hein, que vous signez dans ce livre aux éditions Albin Michel. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que le modèle éducatif d'aujourd'hui est totalement dépassé ?
Oui, tout à fait. Il est complètement en inadéquation avec la conception humaine qui est en train d'émerger, c'est-à-dire le modèle que je défends, qui est le modèle de la neurodiversité, c'est-à-dire l'égalité des intelligences. Je trouve que notre modèle est profondément inégalitaire. Alors, on parle beaucoup des inégalités sociales. Effectivement, il faut les combattre. Je trouve qu'il y a un autre problème aussi qui est alimenté par notre système scolaire, c'est les inégalités cognitives.
Oui, mais vous allez très loin parce que vous dites que cette institution est indigne de confiance, rigide et intolérante.
Oui, tout à fait. C'est une institution qui est complètement intolérante par rapport à la diversité. Alors encore une fois, pas seulement la diversité ethnique, sociale, etc. La diversité des intelligences. C'est-à-dire que n'importe quelle manifestation différente, on va dire, dès le plus jeune âge, va être interprétée comme anormale et va condamner, plus ou moins, suivant les rencontres qu'un enfant va faire, à l'échec. Et moi, je trouve ça absolument scandaleux. En fait.
Oui. Alors, mais vous le définissez bien, c'est-à-dire que vous dites qu'il faudrait donner plus d'autonomie, globalement, en fait, c'est ça. Après, d'un point de vue matériel, ça semble un petit peu compliqué quand on voit les classes qui sont souvent surchargés, on se dit comment faire effectivement, quelle peut être la méthode.
Alors on dit souvent effectivement que c'est impossible d'agir sur ces classes surchargées, alors moi ça m'interpelle beaucoup, puis alors, c'est d'autant plus d'actualité en ce moment avec le corona, puisqu'on sait que certains pays ont pris des mesures pour réduire les classes, dédoubler les classes. Moi, j'ai travaillé en REP+, j'ai expérimenté les expériences de classes dédoublées, c'est très bien, mais c'était vraiment une heure par-ci, par-là, hein. Ça restait assez minoritaire. Je pense qu'effectivement, il faut généraliser ça. Et moi, ça m'interpelle quand je vois, par exemple, c'est un exemple en Italie, par exemple, le budget éducation nationale n'est pas supérieur au nôtre. Pourtant, au niveau des effectifs, on passe presque du simple au double. Donc, c'est pas non plus impossible. C'est une question aussi de choix et de priorité. Et effectivement, quand on parle d'autonomie, quand on parle de suivre chaque élève dans son projet, dans son développement, c'est évident qu'un enseignant qui est tout seul avec 30 élèves de maternelle, par exemple, il peut pas suivre chaque élève. Là, on est d'accord. Oui, mais ça, tout le monde le sait.
Non, mais c'est ce que vous dites, quoi. Hein. Il faudrait davantage s'attacher à chaque élève parce que ils ne vont pas au même rythme les uns les autres, quoi. Passer plus de temps, travailler plus longuement, plus en profondeur, quoi.
Oui, tout à fait. Et puis en plus, en imposant une cadence et un rythme, en fait, et des paliers extrêmement restrictifs, extrêmement précis, en fait, on va condamner les enfants qui vont soit être trop en avance, ça je l'ai dit dans le livre, je pense, soit être trop en avance, parce que ceux-là sont vraiment condamnés. On dit qu'on pathologise, et j'en parle aussi, qu'on pathologise les différences, etc. On dit qu'on pathologise tout ce qui est haut potentiel, etc. Ouais. Mais en même temps, c'est pas une question d'être haut potentiel, c'est une question, si on va pas au même rythme que le rythme qui est imposé par l'institution, on va être pénalisé, parce que soit on va s'ennuyer, on va faire n'importe quoi.
Il faut finir le programme qu'il arrive.
Il faut finir le programme quoi qu'il arrive, et il faut le suivre, il faut vraiment rester dedans. Et ça, c'est vraiment, mais c'est un gâchis énorme, en fait.
Mais vous dites que quand vous avez commencé, justement, vous vouliez pousser un peu les limites, et vous avez été extrêmement mal vu dans l'éducation nationale.
Bah en fait, oui. Alors, il y a une question de ce que je dénonce aussi dans le livre, c'est une question aussi de culture, en fait. Il y a la culture de la hiérarchie, il y a la culture de la normalité. Et en fait, dès qu'on essaye de questionner un petit peu tout ça et d'expérimenter des choses, effectivement, alors surtout quand on est un jeune enseignant, parce qu'il y a des enseignants, s'ils tombent bien, après quelques années de carrière, qui arrivent à expérimenter des choses. Mais vraiment, c'est très, très compliqué, effectivement, de remettre en cause le système. Et j'ai vraiment l'impression qu'on manque. On a beaucoup critiqué la réflexion pédagogique au détriment de, qui pouvait se faire au détriment de l'action. Je trouve qu'on a besoin des deux. On a besoin, alors moi, j'enseigne encore dans le privé, mais je trouve qu'on a vraiment besoin des deux. On a besoin vraiment de se questionner sur le sens de notre éducation, sur une vraie éthique de l'éducation, parce que là, l'éducation à l'heure actuelle, elle est discriminante de manière concrète pour des enfants qui vont se retrouver hors du système scolaire, mais aussi pour les enfants qui sont dans le système scolaire, qui ne vont pas réussir leur parcours.
Oui, alors il y a beaucoup de questions, on va voir tout ça ensemble aussi tout à l'heure, mais on profite aussi de la présence encore de nos éditorialistes pour vous poser des questions avec Christine Bouillot et Alexis Poulain qui va commencer.
Oui, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des pays voisins, européens ou ailleurs, qui sont un modèle dans cette éducation-là, qui prend en compte la diversité des intelligences?
Alors, un modèle absolu, non. Après, on a vraiment une grosse marge de manœuvre. On a vraiment des expérimentations qui peuvent nous intéresser. On parle beaucoup de la Finlande en matière d'éducation. Il y a vraiment des accompagnements qui sont plus personnalisés. Et en plus, il y a vraiment une collaboration entre les élèves, les enseignants et les familles. Ça aussi, c'est un point que je soulève dans le livre, c'est que, en fait, quand on coopère plus avec les familles et avec les élèves, on arrive beaucoup, c'est évident en même temps ce que je dis, mais on le fait pas du tout en France, c'est vraiment pas du tout dans notre culture, on arrive beaucoup plus à individualiser les parcours. Et en Italie, ils sont aussi beaucoup plus à l'écoute parce que, en fait, ils ont mis en place un système qui fait qu'on a un enseignant, entre guillemets, normal,
ils appellent normal, ça un enseignant normal. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire
ils appellent ça curriculaire qui suit le programme, on va dire, et un enseignement spécialisé par classe, ce qui fait que du coup on va à la fois avancer, puis à la fois intervenir, à la fois proposer un accompagnement qui s'adapte en fait au profil de chaque élève. Après, je pense que tous les modèles éducatifs au monde ont à la fois des défauts et des qualités. Je trouve aussi intéressant au point de vue de l'espace, ce qu'on a fait du côté de la Nouvelle-Zélande, parce qu'en fait, ils ont beaucoup travaillé sur les espaces qui permettent aux enfants d'avoir des projets en commun, en fait, de s'isoler, de se mettre en groupe pour avoir des projets, et non pas d'être cantonné à une classe, et aussi de faire des ateliers, des travaux entre âges. Entre âges, en fait, puisque du coup, il n'y a pas vraiment de classe sclérosée. Ça, je trouve ça intéressant d'un point de vue de l'espace et aussi d'un point de vue du partage des connaissances au niveau des âges.
Ça, avec aujourd'hui les contraintes Covid, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, le projet peut exister. Christine Bouillot veut vous poser, en fait, une question.
Oui,
aussi.
Julie Speranza, pour vous, le constat que vous dressez, presque il n'est pas nouveau, mais vous diriez la faute à qui ? Est-ce que c'est la faute, c'est quand même une institution, l'éducation nationale, 850 000 enseignants qui doivent gérer 12,5 millions d'élèves. Il n'y a rien de comparable dans la société qui gère autant d'individus. Est-ce que c'est l'institution en elle-même qui est responsable de ce constat que vous dressez ? Est-ce que c'est le ministère de tutelle, celui qui donne finalement la ligne directrice ? Ou est-ce que c'est les individus, à savoir les enseignants, que l'on a vu à l'œuvre aussi pendant le Covid, c'était intéressant, puisqu'on a vu aussi, et le rapport à l'éducation était intéressant, de voir comment ils maintenaient le lien avec leurs élèves individuellement à distance.
Oui, merci pour votre question. En fait, j'ai trouvé, moi, au niveau de l'expérience du Covid, que les enseignants ont vraiment montré qu'ils étaient capables de créativité et d'initiative quand on leur laissait cette liberté. Alors après, bon, le corps enseignant qui a été injustement malmené aussi pendant le Covid, parce que c'était quand même pas évident pour eux non. De s'adapter
surtout qu'ils n'avaient pas tous les outils, et ils n'avaient pas les outils, ils n'étaient pas préparés,
personne n'était préparé à ça. Donc après on a vu, enfin moi en tant que mère, en tant qu'enseignante, en tant que collègue, j'ai vu beaucoup de choses très intéressantes. Donc moi je pense et je suis convaincue, de toute façon, enfin je vais dire une chose très bête, mais les enseignants quand ils rentrent dans l'éducation nationale, c'est pas pour le salaire. Je pense pas que ce soit pour les vacances, parce qu'on se rend quand même très rapidement compte qu'on n'a pas beaucoup de vacances. Parce que si on veut bien...
Attendez, là, non, vous allez en faire réagir certains qui vont dire venez à ma place, allez voir.
Je dois l'évoquer dans mon livre, mais bon, ouais. les heures de sommeil, surtout en début de carrière, surtout quand on a aussi des enfants, parce que beaucoup d'enseignants sont aussi parents. Enfin voilà, comme beaucoup de gens, mais c'est énormément de travail. Si on fait bien son travail à l'heure actuelle, c'est énormément de travail. Donc moi je pense qu'un enseignant vient parce qu'il aime son métier, parce qu'il a envie de transmettre, parce qu'il a envie d'apprendre. Donc je ne pense pas que ce soit la faute des enseignants, pas du tout. Je pense vraiment qu'effectivement on a un gros problème de culture, et que c'est le rôle effectivement de l'institution, c'est le rôle du ministère de vraiment réagir, et pas de faire des petits aménagements à la marge. On va offrir quelques heures par-ci par-là, on va mettre quelques AESH sous-payés par-ci par-là. C'est insuffisant, il faut vraiment renverser le modèle.
Allez, on va continuer d'en parler. Donc les profs méprisés, hein, c'est ce que vous dites aussi. Puis il y a coéduquer avec les parents. Est-ce que c'est possible, hein? Vous l'évoquez dans votre livre. On va continuer. Juliette Speranza, l'échec scolaire n'existe pas. Chez Albin Michel, vous êtes avec nous jusqu'à 10h moins le quart. Et vous pouvez nous appeler 0826 300 300.
Restez là, il est 9h27.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile Deménibus.
Il est 9h30, merci d'être avec nous. La suite, l'échec scolaire n'existe pas, aux éditions Albin Michel, avec Juliette Speranza, qui veut dire espoir. Hein. Donc on a espoir que l'école se passe plutôt bien pour nous. Et on a Julie qui nous appelle au 0826 300 300, qui a une question pour vous. Bonjour Julie.
Oui, bonjour. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Enfin, l'échec scolaire n'existe pas. Moi, je crois qu'on va de plus en plus vers un abîme dans la scolarité.
Ouais.
Et je pense surtout à une de mes connaissances qui m'a raconté qu'en fait, en 1981, lorsque le président Mitterrand a été élu, il a instauré un nouveau système pour le concours de l'école normale. C'est-à-dire que c'était un véritable nivellement vers le bas, par le bas. On a fait passer le concours de deux manières. Il y avait un sujet scientifique qui faisait partie du concours. Si vous voulez, on prenait les meilleurs. Et là, en fait, c'était un barème, 12 et 12. 12 en matière scientifique et 12 en matière littéraire. Et de là, voilà, on a eu un déclin du niveau des instituteurs, des professeurs. Et on le paye maintenant. Moi, j'ai vu avec mon fils, je l'ai payé, vraiment.
Ouais.
J'ai vu mon petit garçon qui n'a pas écrit des lignes de A, de B, de C. Comme nous, on a toujours appris pour avoir un bon orthographe à la base, d'avoir cette base de l'orthographe. Non, il faisait aucune ligne. Et moi, j'étais un peu stupéfaite. Je disais, mais vous leur faites pas faire Non, mais écoutez, on sait très bien ce qu'on a à faire, ne vous inquiétez pas. Je dis, mais vous ne leur faites pas des lignes de lettres, là ? Ils n'apprennent pas à écrire. Non, c'est une nouvelle méthode. Oh non, mais attendez, non, moi, je suis effarée, quoi.
Ouais.
Mon fils a 12 ans, et il écrit, c'est déplorable. Il a une écriture déplorable. Quoi.
Ouais. Question très concrète. Restez avec nous, Julie. Vous nous appelez de Midi-Pyrénées, je crois.
Ouais.
D'où ça, d'ailleurs, précisément, Julie ?
D'où le price tag.
D'accord. Juliette Speranza, vous avez entendu Julie. Mmh. Bon, sur deux points. Donc le premier, déjà sur le niveau des professeurs. Elle dit il a baissé avec nivellement ou pas. Est-ce que bon, c'est difficile parce que d'en parler pour vous-même parce que vous êtes directement concerné, mais bon.
Oui, après, je pense que c'est pareil. Le corps enseignant, c'est quand même assez vaste. Je pense qu'on peut retrouver des personnes excellentes comme.
C'est vrai
que le recrutement au concours, bah, je pense que c'est de moins en moins attractif, le métier d'enseignant. Mais voilà, enfin, je veux dire, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les enseignants sont aussi pas très valorisés dans la société. Il n'y a pas uniquement le salaire, il y a aussi la considération qu'on a pour le corps enseignant, la confiance qu'on a dans le corps enseignant. Mais bon, c'est réciproque, hein. c'est un problème, c'est vraiment un problème qui englobe à la
fois
les...
Vous avez toujours ce sentiment, oui, c'est ce que vous dites hein, dans votre livre, que les profs se sentent un peu méprisés et donc peut-être qu'ils se renferment un petit peu.
Oui, je pense. Alors, il y a à la fois vraiment une culture de la défiance qui est instaurée vraiment dès le début de la carrière, où vraiment on apprend aux enseignants d'être professionnels, de garder la bonne distance avec la famille, ce qui n'est vraiment pas le cas dans tous les pays d'Europe, par exemple, et ce qui crée des incompréhensions énormes. Enfin, moi, je suis effarée. Dans les textes, on voit que le ministère parle d'espace parent. Pour justement favoriser, on les voit nulle part. Enfin, moi, j'en ai pas vu personnellement. Hein. Je veux dire, les parents. Bon, alors en plus avec le Covid, là, c'est pire que tout.
Mais oui. Pardon, je vous coupe. Mais vous dites quand même dans votre livre que les profs sont responsables du destin scolaire des enfants. Et vous parlez de cette prof qui estime que un gamin qui s'appelle Dylan, qu'elle estime qu'il a un potentiel intellectuel pas à la hauteur parce qu'il vient des quartiers et donc qui le traitera d'élève médiocre. Et cette médiocrité suivra cet enfant jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est vraiment c'est important justement.
Oui. Alors ça, c'était une remarque d'une psychologue scolaire qui dit dans ces quartiers-là, on n'a pas de haut potentiel. Etc. Et en fait, et effectivement, c'est problématique aussi. Mais ce n'est pas un problème, encore une fois, d'enseignants, parce que les enseignants ne sont pas. Il y a énormément d'enseignants qui vont être très attentifs aux moindres signes, qui vont essayer de porter les élèves le plus haut possible. Mais c'est un problème vraiment de culture, d'inconscient collectif, d'inconscient enseignant presque. Voilà, on est vraiment poussé à valoriser la normalité. Puis voilà, il y a des structures, il y a des normes, il y a des codes, il y a par exemple, pour passer dans certaines classes prépa, par exemple, on va regarder le lycée d'origine. Enfin, voilà.
Donc, il y a un tri social.
Mais oui, il est encore là, le tri social. Après, moi, c'est pas ce que je dénonce en priorité dans le livre, parce que je pense que ça a été beaucoup dit, et j'espère que ça va être entendu. Mais ça, c'est une évidence. Ça l'est encore.
Que les professeurs perpétuent.
Que les professeurs sont obligés de perpétuer parce qu'ils sont un petit peu coincés dans un système. Et si vous voulez, sinon, ils sont obligés de partir d'une certaine façon. Parce que s'ils essayent toujours de faire autrement, ils vont forcément, on va forcément essayer
de les bloquer,
de les canaliser, de les bloquer, ou alors il faut qu'ils partent.
Oui, Alexis Poulain.
C'est le problème aussi de la mixité qui se décrète pas. Enfin, on voit bien dans les quartiers en REP, vous avez les familles qui, si on a les moyens, vont mettre les enfants dans le privé de toute façon, en pensant que le public ne fera pas le boulot. Donc, il y a ce contournement-là. Et puis après, clairement, vous avez la carte scolaire fait que vous n'avez pas de mixité. Et malgré les annonces en disant, voilà, on va mélanger. Mais est-ce que ça, ce n'est pas un problème, justement, sur la reproduction sociale, le fait de dire qu'on aura... et pourtant, les enseignants en REP font un boulot exceptionnel, justement, parce qu'ils sont motivés, ils y vont par choix. Et j'ai pu le voir. Hein, donc, vraiment, c'est là, justement, qu'on voit des nouvelles pratiques d'éducation, où finalement, l'éducation est meilleure dans ces établissements-là qu'ailleurs, parce qu'on fait attention.
Tout à fait. Alors, au niveau de la mixité, c'est évident. C'est évident que c'est dramatique de continuer à parquer les enfants par classe sociale dans un établissement. Au niveau du privé, encore une fois, avec cet autre aspect de la discrimination que je dénonce, qui est aussi la discrimination cognitive, c'est vraiment dramatique parce qu'en fait, effectivement, on a de plus en plus... Enfin, après, je n'ai pas les chiffres, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de plus en plus, effectivement, de classes aisées qui vont orienter leurs enfants dans le privé.
Oui. C'est vrai qu'il faut regarder aussi la réalité en face. Quand vous dites ça, Alexis Poulain, c'est vrai, mais il y a des parents aussi qui n'ont peut-être pas envie d'aller dans certains établissements où ils savent qu'il va y avoir du racket à la sortie, qu'il y a une forme d'insécurité. On parlait d'autorité tout à l'heure, et ça existe. On ne peut pas aller non plus contre ça, Juliette Speranza. De se dire que les parents ne vont pas accepter que leurs enfants aillent dans tel établissement.
Je les les comprend parfaitement. Ouais. Après, c'est aussi là, c'est un problème politique. C'est ouais. aussi voilà, il faut réagir. En fait, on peut pas avoir une réflexion politique en pensant particulier. Il faut vraiment prendre les choses d'un point de vue global et dire comment on fait pour changer les choses. Ouais. Effectivement, il faut favoriser la mixité. Ouais. Et bon, je pense que ouais. en la favorisant, on va diminuer ces problématiques.
Oui, oui. Alors, il y a on a toujours quelqu'un au 0826 300 300 qui veut réagir. C'est Julie qui est toujours avec nous, hein, je pense, oui.
Oui, alors moi je voulais réagir parce que en fait, moi je voulais parler du fait qu'il y a aussi l'autre sens qu'on peut aborder, c'est-à-dire que moi j'ai, par exemple, je prends mon exemple personnel, j'ai pratiquement fait toute ma scolarité en privé, ouais. et puis j'ai décidé de passer mon bac en public parce que j'en avais marre d'entendre tous mes amis autour de moi qui me disaient toujours « Ah ouais, t'es en privé, alors c'est pour ça que tu passes tous les ans, voilà, donc ça me saoulait vraiment, donc j'ai demandé à mes parents de me mettre en public pour passer mon bac, et là je me suis fait flageller, traiter, enfin je veux dire, les profs étaient odieux avec moi, non mais je vous assure, j'étais dans un lycée bien de gauche, et je m'en suis pris plein la tête.
Ah oui.
Bon, j'ai eu mon bac et j'ai eu des notes, par exemple, où je ramais, soi-disant, dans certaines matières, j'ai eu des super notes. D'ailleurs, c'est grâce, par exemple, à l'anglais que j'ai eu mon bac. Et j'avais un super coef et j'avais une super note. Et alors que je ramais tous les ans, tous les mois, je veux dire, je tremblais, je me disais, mais c'est pas possible, je ramène un bulletin comme ça, alors que j'ai toujours été bonne en anglais. Et vraiment, j'étais la tête de turc de certains profs aussi en histoire géo,
par
hasard.
Oui.
En histoire géo, parce que c'est très politique, hein, l'histoire géo, hein, il faut l'admettre, hein, quand même. Hein.
Oui.
Donc moi, je veux dire que l'école est très politisée. Hein. C'est là qu'est le problème. Et les profs ont une feuille de route à suivre. Et c'est quand même plus l'éducation nationale, là. C'est au-dessus, là. C'est, on touche à d'autres sphères. Hein.
Bon, alors.
Très politisé. Voilà.
Ouais. Bon, non, mais ça, c'est intéressant de poser ce débat sur la table. Juliette Speranza, vous ne l'évoquez pas précisément dans votre livre, mais ça dit, vous évoquez quand même le rapport entre les profs et puis et les élèves, parfois, pour réessayer de mettre en évidence certaines matières auprès d'élèves qui ont du mal, quoi. Comme le disait, en fait, à l'instant, dans son rapport, Julie, avec son prof.
Mettre en évidence certaines matières pour des élèves qui ont des difficultés. Oui, enfin, après, moi, c'est des pratiques, que je ne vois pas, moi, parce que si on parle du collège et du lycée, il y a un équilibre qui est fait entre les heures, etc. Donc, je ne vois pas bien comment on peut...
Équilibrer. Oui.
Bah, je vois pas bien comment on peut renforcer, enfin, si c'était ça l'idée, je vois pas bien comment on peut renforcer, vu que justement, c'est ce dont je parle dans le livre, que tout est extrêmement cloisonné, qu'il y a un nombre d'heures qui est destiné à telle matière.
Non, mais c'est ça, c'est ce que je veux dire. Voilà. C'est que vous voudriez, en fait, qu'il y ait davantage, en fait, des matières où on puisse peut-être approfondir, alors que pour d'autres, passer un petit peu moins de temps, quoi, en fonction des élèves. Quoi.
Adapté, en fait.
Oui.
Ah bah non, mais oui, ça c'est évident, ça c'est ce qu'il faudrait faire. Et ça, c'est bloqué effectivement justement par les programmes qui sont extrêmement lourds et qui en fait prennent le dessus sur tout le reste en fait.
Ouais, ouais. Il y a quand même aussi un passage où vous dites, ce n'est pas rare aussi que les profs donnent de mauvaises consignes et qu'elles ne soient pas reconnues. Les profs ont du mal à reconnaître que c'est pas toujours clair en fait dans les consignes qu'ils peuvent donner aussi aux enfants.
Alors,
et ça, c'est un problème. C'est peut-être ce que voulait dire Julie tout à l'heure, c'est-à-dire que si elle a pas compris un jour la consigne donnée par un prof, derrière elle est fichée, quoi.
Oui, c'est un petit passage que j'ai appelé le malentendu scolaire, effectivement. Alors oui, ça rejoint aussi le problème des diversités cognitives dont je parle dans le livre. C'est qu'effectivement, en fait, les enseignants, souvent, ne vont pas comprendre pourquoi les élèves ne comprennent pas. Et ça, c'est problématique parce qu'en fait, on a l'impression, et c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu quand je suis allée dans un institut de formation, qu'on cherche à recruter des enseignants clones pour pouvoir enseigner correctement à des élèves clones. Et que du coup, en fait, on oublie complètement la diversité. Et en fait, si un élève ne va pas comprendre de la bonne façon, l'enseignant va se dire « mais il est bête ou quoi ?»
Enfin, ouais, c'est
ça, en fait. Enfin, c'est un peu, c'est un peu rapide comme résumé, mais c'est un peu ça l'idée. Et en fait, en prenant le temps, justement, je parlais tout à l'heure de réfléchir, de réflexion, d'éthique, etc. En prenant le temps de comprendre que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière et que toutes ces intelligences se valent, et ben là aussi, on peut vraiment faire avancer les enseignants et la culture scolaire.
Vous parlez aussi des parents, parce qu'on a toujours tendance à pointer le doigt justement sur le laxisme des parents qui laissent leurs enfants à l'école en disant débrouillez-vous. Oui. Vous avez tendance à les défendre, mais il y a quand même des parents qui font ça. Qui n'ont aucun modèle éducatif et qui demandent justement à l'éducation nationale de prendre en charge cette éducation.
Oui, bien sûr. Non, mais évidemment qu'il y a certains parents qui sont défaillants. Enfin, moi, j'en connais pas beaucoup, hein, personnellement. Mmh. Après, oui, évidemment, il y a des gros problèmes. Mais on peut pas, comment dire, on peut pas généraliser non plus. Moi, je vois aussi énormément, j'ai beaucoup plus rencontré de parents qui étaient soucieux de la réussite de leurs enfants que l'inverse. Et quand je rencontre, il y a énormément de parents, parce que j'ai créé une association pour laquelle on défend justement la neurodiversité, et il y a énormément de parents qui viennent vers moi en me disant « Je n'arrive pas à expliquer au directeur, au chef d'établissement, je n'arrive pas à créer un partenariat avec l'enseignant. » Parce que l'enseignant, on n'a pas le temps, n'est pas formé pour ça, etc. Mais voilà,
pour comprendre le fonctionnement de mon enfant, en fait.
Voilà, alors c'est vrai que ça peut être problématique pour un enseignant, parce qu'il a aussi trop d'élèves, parce que voilà. Mais c'est, il faut qu'on y arrive. Enfin, c'est pas possible, on peut pas faire autrement. C'est pas possible d'enseigner à des gens qu'on ne connaît pas. Et en fait, aussi, de par les programmes et la cadence qui est imposée, en fait, on est dès le début censé rentrer dans les programmes déployés pour les maternelles, les primaires, son cahier journal, etc. Mais on prend même pas le temps de les connaître. Il y a une enseignante dont je parle dans le livre qui s'occupe d'enfants autistes, donc c'est un peu plus compliqué, elle a moins d'effectifs, elle, pour le coup. Ben, elle prend une période, c'est-à-dire entre deux périodes de vacances, pour les observer, pour prendre le temps de les connaître. Je ne vois pas comment on peut enseigner à un enfant quoi que ce soit sans le connaître. Moi, ça me dépasse, en fait.
Christine Bouillot veut vous poser encore une question. Christine.
Ouais, moi, je voulais savoir si, effectivement, dans ce système-là que vous dénoncez, en tous les cas, dont vous faites le constat, qui est presque pas nouveau, c'est la place de l'élève, finalement, dans le système scolaire français. Mais est-ce que la vraie réflexion, c'est pas, on va dire, le calendrier scolaire qui n'est pas fait pour l'élève, mais qui est fait pour la société adulte aujourd'hui? On pense notamment au rythme des vacances scolaires, puisqu'on est sur un rythme de 6 semaines de travail, 2 semaines de vacances. À titre d'exemple, les vacances de la Toussaint, il y a ne serait-ce que 15 ans, n'existaient quasiment pas. Et aujourd'hui, elles durent 2 semaines. Donc, il faut bien faire rentrer un programme scolaire dans les cases. Et donc, ce programme scolaire, dans le temps qui est imparti, est intenable.
Bah, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est une chose que j'évoque. Et effectivement, dans le livre, il y a beaucoup de scandales, effectivement, de calendriers scolaires qui ont été, mais c'est pas nouveau, hein, j'en parle dans le livre, ça date de très longtemps, qui ont été élaborés pour le monde du travail, pour les lobbies. Mais c'est pas, effectivement, ça rejoint ce que je disais par rapport aux familles aussi. Je pense que on pense notre éducation nationale, on pense notre instruction par le petit bout de la lorgnette, et on la prend pas aussi dans un cadre global, dans le fait que l'enfant, il a une famille, le fait que l'enfant, il a une culture, et le fait que l'enfant, il a un rythme, etc. On se donne, en fait, des... Il y a une espèce de culture de... j'ai lu ça dans pas mal de textes institutionnels, le rendement scolaire. Voilà. On est dans une culture du rendement scolaire.
Société
il faut
rendement.
Qu'on ait, voilà, il faut qu'on ait survolé le maximum de choses, mais qui vont être... L'enfant, en fait, un programme scolaire, moi, je pense qu'en un an ou deux, il en connaît la majorité, en fait.
Non, mais on est assez proche de l'hôpital, finalement. C'est la même chose, c'est du rendement.
Je ne me prononcerai pas, je connais moins bien. Mais voilà, c'est allez hop, il faut tout survoler. Et puis dans la cadence, effectivement, vous avez raison, qui est complètement imposée aussi par...
Et du coup, on perd certains élèves, parce que moi, il y a un chapitre, on va peut-être terminer là-dessus, mais il y a un chapitre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Mais qu'est-ce que je fous là ?» C'est des élèves qui se disent « Mais qu'est-ce que je fous là ?» parce qu'ils ne sont pas adaptés ou en tout cas, alors est-ce que eux ne sont pas adaptés ou l'éducation nationale n'est pas adaptée à eux et résultat, ils seront en marge pendant un bon bout de temps de leur scolarité. Hein.
Bah, du coup, je profite de votre question pour répondre à Julie qui me disait qu'elle était scandalisée par le titre. Alors, je précise bien que le titre, ça veut dire que l'échec des élèves n'existe pas. Il ne faut pas considérer que c'est l'échec des élèves. Et effectivement, oui, je suis d'accord avec le fait qu'il y a énormément d'élèves qui sont extrêmement brillants. C'est subjectif de dire brillant, mais qui ont un potentiel énorme, qui peuvent faire des choses.
Tout le monde a un potentiel.
Oui, mais moi j'y crois, j'en suis convaincue. Mais vraiment, moi, des élèves que j'ai vus, que j'ai rencontrés quand ils étaient en terminale, c'était fini, quoi. Alors certains vont rebondir parce qu'ils sont bien entourés, etc. Il y en a qui vont avoir des parcours formidables. Mais d'autres qui sont complètement cassés, qui ne croient plus en eux, qui vont mettre des années à se remettre, alors qu'en fait, ils ont des talents extraordinaires. Et ça, c'est vraiment l'école, effectivement, qui ne s'adapte pas à eux. Je veux dire, c'est pas un enfant, parce que ça commence à 3 ans, bien c'est sûr. pas à un enfant de 3 ans de devenir ce qu'on attend de lui. C'est à l'école, vraiment, de l'accompagner au mieux avec ce qu'il est.
Ouais. Et ben merci justement, beaucoup.
L'accompagnement et le soutien, vous le dites dans votre livre, ça s'appelle « L'échec scolaire n'existe pas », Juliette Speranza, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et merci, restez là, parce qu'on a une gagnante au téléphone ce matin. On a Vanessa qui nous appelle d'Occitanie, à côté d'Albi, je crois. Bonjour Vanessa.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et
vous nous appelez de Terssac exactement.
Oui, juste à côté d'Albi.
Voilà, bah, j'ai bien regardé ma carte de France, c'est bien. Ouais. et vous êtes le 13e appel au standard et vous avez gagné un séjour pour 4 personnes en famille ou entre amis dans un hôtel, petit déjeuner, les dîners, les entrées de 2 jours au parc Astérix. Et vous allez partir avec Alexis Poulain et Patrick Rochon.
Voilà, Mousse. C'est ça. Et Juliette Speranza qui est avec qui, d'accord.
Non, vous avez remarqué,
on aura des cours. Hein.
Vous avez remarqué, elle a eu un rire, mais un peu moqueur. Je dis ça, je dis rien.
Qu'il soit d'accord à la maison.
Ah d'accord, donc il y a un monsieur Vanessa à la maison, c'est ça.
Voilà, et un enfant aussi, donc un ado.
Bon. Ah, voilà. Bon, vous pouvez les donner en attendant, comme ça vous partirez tranquille, peinarde. En tout cas, vous avez gagné un très joli cadeau au parc Astérix, on est ravis de vous offrir ça pour cette rentrée scolaire. Vous faites quoi, Vanessa?
Eh bien, merci beaucoup déjà. Et puis, écoutez, là, on attend la rentrée avec impatience cette année. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre.
Oui, c'est assez étrange. Voilà. Et votre enfant, à quel âge? Il va rentrer en quelle classe?
Il est au collège, il a 14 ans.
Ah, voilà, ouais, ah oula, c'est l'âge compliqué là. Ah, ça a commencé les filles et tout ça. Oulala, la
malheureuse. J'avoue.
Bon, en tout cas, on vous embrasse. Bon. Vanessa, merci de nous avoir appelés. Et puis, merci de votre fidélité. Vous écoutez Sud Radio souvent?
Oui, régulièrement, bien sûr, hein, dans la voiture, comme à la maison.
Je vais vous faire une petite ordonnance tous les matins à partir de 6h30. Voilà, merci beaucoup. Voilà. On vous embrasse, Vanessa, passez une belle journée.
Merci à vous, au revoir.
Et à tout de suite, Sud Radio revient
dans un instant. Dans un instant, André Bercoff sera avec nous, son grand retour au midi à 14h. Et Stéphane Soumier également, nouveau rendez-vous ce soir à partir de 19h30 hein, dans Les Vraies Voix. Il sera avec nous également.
Et 9h49, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h52 et nous accueillons quelqu'un qui devrait arriver dans très très peu de temps, à midi exactement, c'est André Bercoff.
Bonjour.
Comment ça va, André Bercoff?
Oui, bonjour André. Oui.
Bonjour Patrick.
C'est un peu la rentrée, donc vous rentrez de retour et sur le pont à midi. Et on a quelqu'un d'autre qui est avec nous aussi, c'est Stéphane Soumier qui est avec nous.
Bonjour à tous.
Bonjour Stéphane, qu'on va retrouver à 19h30, nouveau rendez-vous avec la chaîne Bismart, on va en parler dans un instant. Bon, d'abord André, vous avez eu un peu des cahiers de vacances, des devoirs de vacances et vous allez nous parler de ça à ce midi ou pas?
Oui, non, il y a eu, on va parler, vous savez, notre devoir de vacances depuis toujours, hein, oui. Et à Sud, et dans Bercoff, dans tous ces états, c'est la liberté d'expression.
Oui.
C'est ça, c'est pas seulement parlons vrai, c'est aussi parlons libre. Et on va parler de la liberté d'expression parce qu'en ce moment, ben, elle connaît quand même pas mal d'attaques, pas mal de grignotages, pas mal de... Ah. J'allais dire démantèlement, et on va essayer d'en parler, on va parler parce qu'il y a de quoi faire. Et je voulais simplement vous dire, Patrick et Cécile, moi ce qui m'a vraiment... je veux dire, j'ai pas eu des devoirs de vacances, j'ai eu des satisfactions de vacances, il faut le dire, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison.
Oui.
On s'est baladé un peu en Provence, dans le sud de la France, un peu partout. Et je veux dire que les gens venaient dire merci pour ce que vous dites à la radio, merci pour... Et je parle en général, hein, je parle pas seulement... Et les gens réagissaient vraiment, et vous savez, c'était des merci, c'était même pas des commentaires ou des attaques ou des éloges, c'était merci. Et ça, vous vous dites, bon, ouais, voilà, on fait pas ça pour rien.
On a gagné
le pari. On fait pas ça dans le silence, et on fait pas ça parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Mmh. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable de savoir que comme ça, dans les cafés, vous retrouvez dans la rue et les gens viennent vous aborder et vous dites ça. Et franchement, ça fait plaisir.
Quoi. Ça fait chaud au cœur. Bon, ben voilà, Bercoff dans tous ses états. C'est de midi à 14h, hein, toute la saison, là, André. Et notamment dans la deuxième partie où Bercoff est avec vous. C'est-à-dire que vous continuez de l'appeler 0826-300-300. Vous avez évidemment la parole pour vous exprimer. Hein, André, vous Absolument. Attendez les appels sur tous les sujets, bien sûr, pour dialoguer avec vous.
Et sans censure, ni auto-censure.
Voilà. Ouais, et sans tabou. Et sans tabou. Alors sans tabou aussi, Stéphane Soumier, on est ravis de vous accueillir sur Sud Radio.
Bienvenue Stéphane.
Mais merci de m'accueillir, absolument. Oui. Tabou, je sais pas. Je sais pas s'il y a jamais eu des tabous en ce qui concerne la vie des entreprises, vous savez.
Bah, il y en a un peu, parfois.
Vous avez raison, c'est plein de tabous. En fait, c'est plein de tabous. C'est plein de sujets interdits, c'est vrai.
Oui.
On baigne dedans en ce moment. Tiens, je vais vous en mettre deux. Le dividende et le temps de travail. Vous voyez, par exemple.
Voilà. Ah oui,
ça démarre mal.
De vos sujets. Mais ça, c'est, alors, c'est une partie de débat qu'on pourra peut-être avoir ensemble. Mais l'essentiel de ce qu'on va faire ensemble, Patrick, Cécile, c'est les témoignages d'entrepreneurs.
Voilà,
l'essentiel, en fait, le sujet, c'est tout le monde va parler de la crise, des destructions d'emplois. Nous, on va parler de la transformation.
Ouais.
On va parler de la façon dont un certain nombre d'entrepreneurs, et ils sont très, très, très nombreux partout.
L'économie positive.
Alors, pas forcément l'économie positive, je me méfie de ce terme, mais en tout cas, affronter les choses.
D'accord.
Prendre le taureau par les cornes. Alors, quand vous prenez le taureau par les cornes, vous pouvez aussi vous faire défoncer. C'est jamais gagné d'avance.
Mmh.
Et il va falloir le raconter, ça aussi.
Mmh.
On va pas être baigné dans un monde de bisounours. Mais en tout cas, on va affronter les choses, on va se transformer et on va essayer d'en ressortir et d'en ressortir plus fort. C'est ça le sujet.
Voilà,
donc
c'est ça.
Voilà, c'est de ça dont on va très très largement parler.
Avec la chaîne Bismart.
Absolument.
Et donc c'est chaque soir sur Sud Radio à partir de 19h30. Et ce qu'on aime bien avec vous, Stéphane, c'est votre enthousiasme pour nous raconter dans les détails en fait les choses et poser toutes les questions justement aux chefs d'entreprise. Parfois on rentre dans des petits détails, mais on est dans une histoire à chaque fois aussi.
Bah, exactement, il va falloir accepter ça, et c'est le pari qu'on prend ensemble, Patrick, c'est-à-dire accepter effectivement que vos auditeurs, nos téléspectateurs s'intéressent aux détails de la vie des entreprises. Par exemple, en ce moment, la bataille pour la trésorerie. En ce moment, l'entreprise, sa visibilité, c'est la semaine prochaine, c'est le mois prochain. Comment est-ce que je fais les salaires? Comment est-ce que je paye les fournisseurs? Comment est-ce que je négocie tel bail? Comment est-ce que j'essaye de sauver peut-être tel fournisseur qui est encore plus en difficulté que moi? Voilà, ça va être ça le quotidien de la vie des entreprises avec, je le répète encore, l'ensemble de ces programmes qu'il faut d'ores et déjà lancer. La bataille de l'investissement, par exemple, va être aujourd'hui très très importante.
Merci
Stéphane
Soumier.
Merci beaucoup, merci.
Je commence à être fatigué, moi, depuis 5h ce matin. Stéphane, donc on vous retrouve à 19h30 dans Les Vraies Voix élargies. Hein. Philippe Rossi de 17h à 19h avec beaucoup de vraies voix. Et puis ensuite, Les Vraies Voix qui font bouger la France de 19h à 20h avec Jean-Marie Bordry. Dédé Berkoff sur le pont, donc évidemment, midi 14h. Dans un instant, c'est
Brigitte Lahaye.
Valérie Expert. Brigitte Lahaye, c'est l'après-midi. Je remets tout dans l'ordre.
Oui,
hein. Valérie Expert, c'est dans un instant de 10h à midi. Brigitte, cet après-midi, 14h, 16h.
Trina Magdine,
c'est votre avenir. Poser toutes les questions, 16h, 17h, et puis ensuite, ce soir, Yvan Cujous.
Et puis n'oubliez pas le numéro de téléphone, 0826 300 300, parlons vrai, c'est Sud Radio. En tout cas, on a été ravis de passer cette première journée
avec
vous.
Allez, on vous embrasse, on le peut à travers le micro, c'est plus simple.
On vous fait des hugs, voilà, on vous embrasse très fort, passez une bonne journée, on vous retrouve demain, salut.